Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Boeing dans la tourmente au lendemain du crash d'un 737 flambant neuf qui venait d'être livré à Ethiopian Airlines. Un scénario identique à la catastrophe en Indonésie il y a 5 mois. L'accident hier a coûté la vie à 157 personnes, dont 9 Français. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Le nouveau combat judiciaire de Bernard Tapie, 10 ans de bras de fer avec le Crédit Lyonnais, des heures d'attente pour les passagers de l'Eurostar à Paris, les douaniers font la grève du zèle. Déjà privés de tout, les Vénézuéliens vivent dans le noir depuis 3 jours. Et puis découvrir l'Algérie grâce aux toiles de Gustave Guillaumet, c'est ce que propose une exposition à Roubaix.
Les invités de France Inter ce matin, bonjour Léa Salamé.
Mais bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À 7h50, qui recevez-vous ?
Plus de 30 ans qu'il pourfend, critique, fustige l'Union Européenne. Il sort aujourd'hui, à moins de 3 mois des élections, une nouvelle enquête à charge. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Il s'en prend au père fondateur de l'Europe, Jean Monnet et Robert Schuman, et explique que l'Union Européenne serait la création secrète de la CIA et des nazis. Une thèse polémique, controversée. Philippe Devilliers sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, son nouveau roman, à coup sûr, va rencontrer un large public. C'est un texte d'une grande douceur sur la vieillesse. Delphine de Vigan est dans le grand entretien de la matinale pour les gratitudes chez Lattès. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. C'est la Chine qui prend ce matin la décision que Boeing redoutait. Pékin demande aux compagnies chinoises de ne plus faire voler pour l'instant les Boeing 737 MAX, le temps que le constructeur américain prenne les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers. La compagnie Ethiopian Airlines vient de lui emboîter le pas, car le crash hier d'un 737 MAX est le deuxième en quelques mois, selon un scénario quasi identique. Grégory Phillips.
Évidemment, il est trop tôt pour dire si les deux accidents, celui de la compagnie Lion Air en octobre, en mer de Java, qui avait provoqué la mort de 189 personnes, et celui d'Ethiopian Airlines ont une cause commune, mais les deux catastrophes se ressemblent, un crash quelques minutes seulement après le décollage. Boeing et l'autorité américaine de sécurité des transports ont donc envoyé sur place des équipes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce modèle, le 737 MAX, n'est en service que depuis 2 ans, 350 appareils ont déjà été livrés, essentiellement en Chine, mais 5000 ont été commandés. Pékin, d'ailleurs, demande à toutes les compagnies chinoise de clouer ses avions au sol en attendant les résultats de l'enquête. Ces deux accidents mortels sur un nouveau modèle sont évidemment un coup très dur pour le constructeur américain qui, suite au drame d'hier, préfère reporter la présentation de son nouveau gros porteur, le 777X, qui était prévu après-demain à Seattle. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Les difficultés de Boeing, article à retrouver également sur franceinter.fr. Les 157 personnes à bord de l'avion qui assurait la liaison entre Addis Abeba et Nairobi ont été tués, parmi elles 9 Français. Le Quai d'Orsay n'a pas communiqué leur identité. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Hasard du calendrier, Emmanuel Macron doit se rendre en Éthiopie cette semaine. Le chef de l'État quitte Paris ce soir pour une tournée de 4 jours en Afrique de l'Est.
Il est 7h04, Agnès, l'actualité ce matin. C'est aussi le nouveau procès de Bernard Tapie.
6 prévenus, dont Bernard Tapie, vont donc se retrouver tout à l'heure devant le tribunal correctionnel de Paris qui doit juger si l'arbitrage qui a bénéficié à l'homme d'affaires est une escroquerie et un détournement de fonds publics. En 2008, cet arbitrage avait accordé à Bernard Tapie plus de 400 millions d'euros pour régler son litige avec l'ex-banque publique Crédit Lyonnais. Également poursuivi, mais pour complicité, l'actuel patron d'Orange, Stéphane Richard. Il était alors directeur de cabinet de la ministre de l'économie, Sarah Guibaudeau.
En 2007, Bernard Tapie soutient Nicolas Sarkozy. Après la victoire, selon des témoins, il est convaincu de sortir vainqueur de l'affaire Adidas. Il devient un visiteur du soir de l'Élysée. Mais en 2008, à l'Assemblée nationale, il nie toute intervention politique.
Moi, je peux vous dire qu'à aucun moment, aucun, on peut voir la main du pouvoir dans la décision de faire l'arbitrage.
Protégé par l'immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy a refusé de répondre au juge d'instruction. Quant à Claude Guéant, son secrétaire général, il n'est pas poursuivi, son implication n'est pas prouvée, même si dans leur ordonnance, les juges d'instruction le qualifient de courroie de transmission du président pour mettre l'appareil d'État au service de Bernard Tapie. L'ancienne ministre Christine Lagarde a été reconnue coupable de négligence et dispensée de peine par la Cour de justice de la République. Elle a assumé ses décisions, mais laissé entendre que son directeur directeur de cabinet lui aurait caché des informations. Devant la justice ordinaire, Stéphane Richard est en haut de l'affiche. Stéphane Richard en 2014 sur France Inter.
Je n'ai joué que mon rôle, celui d'un exécutant. Et ça me choque beaucoup que dans ce dossier, on ne parle que des lampistes. Et que finalement, les décideurs politiques, eux, ils bénéficient d'un traitement plutôt de faveur.
Stéphane Richard estime, lui, que Bernard Tapie a roulé tout le monde. Il a un mois pour convaincre le tribunal correctionnel de Paris.
Bernard Tapie qui entend bien se défendre malgré la maladie, un cancer de l'estomac, nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Ne rien lâcher, c'est aussi le credo de Carlos Ghosn qui, tout juste sorti de prison, veut assister demain au conseil d'administration de Nissan. Un tribunal de Tokyo doit se prononcer dans la journée. C'est une semaine décisive qui débute pour le Royaume-Uni et l'Union européenne puisque les députés britanniques doivent se prononcer d'ici jeudi sur l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. En cas de refus, le Brexit ne pourra pas avoir lieu comme prévu le 29 mars. L'incertitude sur les conditions de ce Brexit a des répercussions en France, où les douaniers, d'abord à Calais, puis à Paris, tirent la sonnette d'alarme sur le manque de moyens. Résultat, une grève du zèle et de longues files d'attente Gare du Nord à Paris. Reportage signé Marie Roussel.
Dans cette partie de la Gare du Nord, le hall est coupé en deux. Au milieu, une immense file d'attente.
En gros, elle fait tout le tour en haut et puis ensuite, il faut faire la queue pour prendre l'escalator et il faut encore faire tout le tour de la gare.
Khaled prend son mal en patience.
On n'a pas le choix.
Surtout que les panneaux affichent des départs retardés de 2 heures.
Il n'y avait pas vraiment de moyen de prévoir en fait.
C'est pas bon.
J'ai une correspondante, donc je ne sais pas comment je vais le gérer. J'hésitais avec l'avion, mais c'est dommage, je n'aurais pas dû.
L'avion c'est pareil.
Ah c'est pareil, ah d'accord. Bon, je serais peut-être mieux là.
Mais oui, que ce soit en Gare du Nord ou dans les aéroports de Roissy et d'Orly, la galère est la même. Depuis quelques jours, les douaniers contrôlent de manière plus stricte les voyageurs qui se rendent en Grande-Bretagne, un avant-goût du Brexit.
C'est pas pratique. J'espère qu'ils vont améliorer la situation là-haut avec plus de machines peut-être.
Plus de moyens et surtout plus d'effectifs, c'est ce que demandent les agents douaniers et les syndicats.
Évidemment que ça va être très compliqué, d'autant plus qu'on a une grande impréparation. C'est vraiment le sentiment qu'ont les douaniers.
Yann Kerr-Hervé, secrétaire interrégional CGT Douane en Île-de-France.
On peut être inquiet et puis les moyens ne sont pas mis. Donc on se dit que voilà, on va laisser passer beaucoup de choses.
Les syndicats ne s'attendent pas à de grandes annonces de la part de leur ministre Gérald Darmanin demain. Ils parlent déjà de prolonger leur action.
Et des perturbations sont effectivement prévues au moins jusqu'à demain.
Il est 7h08, Agnès Abdelaziz Bouteflika, de retour en Algérie.
Aucune image du président, mais un avion officiel a bien quitté la Suisse hier où était hospitalisé le président pour atterrir sur une base militaire près d'Alger. Abdelaziz Bouteflika qui doit faire face depuis l'annonce de sa candidature à un cinquième mandat à une fronde sans précédent. Hier encore, des milliers de lycéens ont défilé dans tout le pays. Un appel à la grève générale a été lancé et ils étaient également plus de 10 000 à manifester hier après-midi à Paris. Écoles et services publics fermés aujourd'hui au Venezuela. Le pays est plongé depuis plus de 3 jours dans le noir en raison d'une gigantesque panne d'électricité. Le président autoproclamé Juan Guaido demande aux députés de voter l'état d'urgence pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays, car la vie quotidienne est devenue un enfer. Reportage du correspondant de France Inter à Caracas, Benjamin Delisle.
La panique commence à se faire sentir chez les Vénézuéliens. Non seulement à cause des pénuries qui s'accumulent, mais aussi à cause de l'insécurité des pays. Le pillage aurait eu lieu dans la nuit. À Caracas, l'électricité revient de manière très partielle dans certains quartiers toutes les 6 ou 7 heures, mais cela ne dure jamais très longtemps. Tous les services sont affectés par cette immense coupure. Sans électricité, il n'y a plus d'eau, plus d'essence non plus, et presque aucun commerce n'est ouvert. À cause des pénuries d'argent liquide, il n'est plus possible d'acheter quoi que ce soit car les terminaux bancaires ne fonctionnent plus. La nourriture commence aussi à pourrir car il n'y a plus aucun moyen de la garder au frais. Des immenses queues s'organisent devant les dernières stations services encore ouvertes et devant les rares magasins qui acceptent de vendre quelques produits en dollars. Des rassemblements se forment aussi là où le réseau téléphonique fonctionne encore faiblement. La situation la plus dramatique concerne les hôpitaux. Le manque d'informations rend tout bilan impossible, mais il est certain qu'il sera lourd car de nombreux patients ne peuvent plus être soignés. Autant de facteurs qui alimentent la colère des Vénézuéliens. Des manifestations spontanées éclatent depuis hier soir dans plusieurs quartiers pour exiger le retour de l'électricité. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Il est 7h10, retour en France, Agnès, pour saluer le succès de la laine française.
Qui sera l'une des vedettes le mois prochain du salon Made in France, car aujourd'hui la situation est paradoxale. 80% de la laine française non traitée part en Asie et les maisons de mode françaises font appel à de la laine venue de très loin. Alors comme pour l'alimentation, la tendance est à la consommation locale et ça commence en Occitanie. Suzanne Chaudjahi.
Surtout dans le Tarn, la région de Mazamet garde son savoir-faire et non loin de là, en Lozère, un créateur de jeans utilise la laine tarnaise.
Je porte jean en laine, veste en laine.
Pour Julien Tufféry, c'est sûr, la laine a de l'avenir.
On peut démystifier un petit peu cette laine en faisant des produits en jean. Et pour le coup, on a un aspect qui est hyper moderne, qui est hyper branché, qui est très joli.
C'est aussi un retour aux sources.
Mon arrière-grand-père, il y a 126 ans, fabriquait des jeans à base de laine. Donc, de pouvoir réécrire cette histoire-là, oui, ça m'excite beaucoup.
De plus en plus, les consommateurs s'intéressent au Made in France, la fabrication à la française.
Cette laine, elle est lavée à Haute-Loire, à Sogues. Elle est filée à Mazamet, elle est tissée à Castres. Pour le coup, on passe quand même au-dessus de pas mal d'allers-retours mondialisés sur une filière en mode de coton qui peut être très vaste.
Et à l'origine des vestes et des jeans, il y a les éleveurs, bien sûr. Nous sommes à Belserre, près de Castres, l'heure de la tonte.
C'est des lacrones. C'est très physique.
Bernard Plot ne gagne pas beaucoup avec la laine.
Dans les années 80, je la vendais 10 francs le kilo. Voilà. Et le tondeur, il me coûtait 1 franc. Et aujourd'hui, la laine vaut 40 centimes et le tondeur, il vaut 1,50 €.
Le créateur, Julien Tufféry, reverse aux éleveurs 10% du prix des jeans en laine, jeans à 220 €. Sandrine Morin, Suzanne Chaudjahi pour France Inter.
Et le salon du Made in France Première Vision se déroulera les 3 et 4 avril à Paris. Beaucoup de vent depuis hier sur le nord de la France, résultat des milliers de foyers privés d'électricité, notamment dans les Hauts-de-France et en Normandie, et une circulation des TER toujours difficile ce matin dans les Hauts-de-France. C'est encore un hasard du calendrier, mais au moment où le peuple algérien descend dans la rue pour se faire entendre, une exposition à la piscine de Roubaix porte le nom évocateur de Printemps algérien. Cette exposition présente notamment une rétrospective de l'œuvre très étonnante du peintre Gustave Guillaumet, un peintre qui, contrairement à beaucoup de ses contemporains, n'a pas cédé à l'orientalisme. Isabelle Pasquier pour la visite.
Durant ce 19e siècle colonialiste, les peintres sont en plein fantasme orientaliste, avec des odalisques lascives dans leur harem. Mais à l'opposé, un jeune peintre de 22 ans, Gustave Guillaumet, est le seul à faire de l'anti-exotisme. Dans le désert, bien sûr, il peint le bivouac des chameliers au crépuscule, et dans les oasis, la beauté des jeunes filles à la rivière. Mais loin de ce parfum d'Arcadie, ce peintre fou amoureux de l'Algérie réalise cette gigantesque toile sur les massacres commis par l'armée coloniale et cette toile terrifiante sur la famine qui anéantit la population algérienne privée de ses terres. Marie Gautron est la commissaire de l'exposition.
Nous sommes devant la famine en Algérie, un tableau monumental que Guillaumet présente au salon de 1869. Les 13 figures en tête dans un passage sont traités à échelle 1, de sorte qu'elles interpellent de façon véhémente le spectateur sur la crise sanitaire qui décime l'Algérie et qui est un véritable sujet politique à l'époque, puisque une commission d'enquête a été missionnée en Algérie pour tenter de comprendre les causes de ce véritable désastre qui décime donc un tiers de la population algérienne entre 1866 et 1869.
Gustave Guillaumet, peintre ethnologue avec des tableaux au réalisme qui tient du photojournalisme, un autre regard sur l'Algérie.
Exposition à découvrir jusqu'au 2 juin, donc, à la piscine à Roubaix.
Merci Agnès Soubiran.